Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrover.
En lançant une recherche Google avec le nom de notre invité de ce soir, on trouve plusieurs images. Toujours souriant, il arbore régulièrement une veste de costume et souvent une cravate mauve. On le reconnaît à plusieurs lieux, par exemple le Siams. Oui, parce que son nom est associé à de nombreux thèmes qui font l'arc jurassien. L'université de Neuchâtel qu'il a fréquenté, le Siams qu'il fréquente encore régulièrement, le bilinguisme dont il se fait un fervent défenseur et l'économie bernoise dont il fait la promotion de manière professionnelle depuis plus de 20 ans maintenant. Oui, plus de deux décennies que notre invité est à la tête de la promotion économique du canton de Berne et la retraite approche, elle est prévue pour fin juin. Il est avec nous ce soir, même sans la cravate mauve. Bonsoir Denis Grisel.
Bonsoir.
Plus de 20 ans de carrière comme directeur de la promotion économique bernoise, ça ressemble à ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant ?
C'est difficile à dire. Je crois que l'économie m'a toujours intéressé. D'une part, je suis né dans une famille où mon père était plutôt dans la technique. Et il a vécu les différentes aléas de l'économie, en particulier les restructurations. Et sa volonté était que son fils aîné ne fasse pas de la technique. Alors la voie était toute tracée pour faire l'économie, en particulier l'économie d'entreprise.
Donc ce qui vous a mis sur la voie, c'est vraiment une impulsion de votre père?
Oui, c'est ça en fait, un petit peu. Je pense que l'environnement familial y a contribué. J'ai pris goût finalement aux questions liées à l'économie en général et l'économie d'entreprise en particulier.
Donc vous l'avez étudié ensuite, quels ont été vos premiers travaux avant d'arriver ici à la promotion économique ?
Bon, quand on fait des études en matière d'économie, on fait un petit peu de tout. On fait des questions de gestion du personnel, on fait des choses liées au marketing, liées à la finance aussi. Et là, je dois dire que j'avais un petit peu de peine à me décider dans quelle voie j'allais me lancer. Et c'est un peu le marketing qui m'a lancé. J'ai fait quelques années dans l'horlogerie, dans le secteur marketing. Et ensuite, j'ai considéré que un domaine qui m'intéressait, c'était finalement un travail qui me lie à ma communauté, à ma région, où finalement, sans vouloir vendre un savon ou un produit comme ça, mais plutôt d'essayer de trouver le moyen de favoriser le développement d'une région. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai mis en fait mes pieds dans le secteur de la promotion économique.
Se mettre au service de l'intérêt public, c'est ce qui vous a motivé à faire aussi long, parce que 20 ans, c'est quand même un bon bout de vie.
Oui, et puis c'est, en fait, en réalité, dans ce métier-là, j'y suis depuis un peu plus de 20 ans, puisque j'ai aussi baroudé dans la région Jura-Bernois-Bienne, Seeland. Et donc, avant de prendre la direction de la promotion économique cantonale, j'ai fait plusieurs expériences dans la région. Donc, je connais assez bien la région Jura-Bernois en particulier. Et c'est là, en fait, que j'ai fait mes premières classes. En fait, après, dans le cadre de différents programmes qui avaient été mis en place pour le Jura bernois, j'ai lancé un petit peu des activités de promotion exogène à l'étranger. Donc j'ai pris ma petite valise, j'ai été à l'étranger faire la promotion de cette région. Et puis c'est en fait en 96 qu'à l'époque, Madame Elisabeth Seuler m'a demandé si j'étais prêt à prendre la direction de la promotion économique, sans vous cacher que j'avais d'autres options à ce moment-là, parce que je m'étais dit maintenant ce serait le moment de changer d'air un peu, puis de voir autre chose. Et j'ai été me présenter même dans des sociétés en France et à l'extérieur. Et finalement, le challenge qui m'était présenté à l'époque, c'était vers 95-96, m'a appâté. Et c'est comme ça, en fait, que je suis resté, parce qu'il y avait des perspectives de faire autre chose que ce que j'avais fait jusqu'à présent.
20 ans plus tard, si on ne va pas pouvoir faire un bilan en peu de temps, mais si vous avez dégagé 2-3 réussites dont vous êtes particulièrement fier.
Bon, je dirais qu'à ce moment-là, en 1996, les challenges, c'était de vraiment construire une promotion exogène, donc d'avoir des agents à l'étranger, de vendre ce canton. Pour vendre ce canton, il s'agissait aussi de lui donner un profil. Vous savez très bien qu'à l'époque, le canton de Berne avait quand même des images qui étaient l'agriculture, l'administration et naturellement le tourisme. Mais on parlait peu de l'industrie et on a fait une analyse avec l'université qui nous a montré qu'on était en fait finalement le plus grand canton industriel avec Zurich, et qu'on avait des forces dans des domaines que l'industrie de la précision, le medtech, les télécommunications et l'informatique, et on a créé nos clusters et on a donné une image. Je crois que ça, c'est le démarrage, en fait, finalement, d'une prise de conscience, en tout cas au niveau de l'entièreté du canton, qu'on avait une certaine force économique. Et puis après, moi, j'ai eu la charge de continuer le profilage et de vendre ce canton à l'extérieur.
quand on travaille dans la promotion économique, on ne crée pas directement des emplois, on n'est évidemment pas maître de la conjoncture. Ce n'est pas parfois un peu frustrant?
Alors oui, je crois que je l'ai dit dans une ou l'autre interview, c'est que nous sommes là finalement pour créer les conditions pour que les entrepreneurs qui ont des idées importantes, qui veulent réaliser des projets, puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Et il y a d'abord ce que j'appellerais moi les conditions passives, c'est qu'il faut qu'il y ait une fiscalité qui soit attractive, il faut qu'il y ait des terrains, il faut qu'il y ait des lois sur le travail qui permettent une certaine flexibilité tout en ayant un partenariat social qui garantisse un développement. Ça, c'est ces conditions de base. Mais si on se concentre sur ça et uniquement cela, la tendance est à la concentration dans les grands centres. Donc il faut apporter des mesures d'accompagnement qui permettent finalement à des régions comme les nôtres, et je constate que le canton de Berne dans son entier est également concerné, c'est qu'il faut un peu plus pour pouvoir provoquer les choses et puis les accélérer dans nos régions. Et c'est le rôle de la promotion économique, ce qui fait que c'est un partenariat avec les entrepreneurs et c'est un travail en commun. Et c'est ça qui m'a toujours en fait beaucoup plu, c'est de pouvoir échanger, les accompagner et aider, faciliter la réalisation de leurs projets. Nous sommes en règle générale en fait plutôt dans l'ombre, mais nous sommes fiers quand une entreprise peut faire son projet et qu'on y a travaillé aussi dans les coulisses.
Quand vous avez pris vos fonctions, c'était le début de ce qu'on a appelé les technologies de l'information ensuite. Internet arrivait gentiment, tout gentiment dans les ménages. Si vous deviez sortir une évolution qui a tout changé, ce serait celle-ci.
Oui, je pense, en fait, moi, quand je suis arrivé, la seule personne qui a reçu un ordinateur, c'était la secrétaire. Et ensuite est venu le fax. Et c'est clair qu'on a vécu, en fait, toute cette évolution. Et c'est ce qui a rendu aussi notre travail passionnant, parce qu'on a dû s'adapter et être, en fait, dans le mouvement pour pouvoir, en fait, suivre. Et c'est une évolution importante qui se retrouve aussi dans l'industrie. Et là, à ce niveau-là, en fait, le rôle que nous avons, c'est d'aménager des conditions qui permettent à ces nouvelles technologies de s'implanter et de se développer.
Vous avez l'impression qu'il existe une fracture technologique, certaines entreprises qui peuvent prendre tous les trains, d'autres qui en laissent trop passer?
C'est difficile de juger de cette manière. Tout ce qu'on constate, nous, c'est qu'il est important que les changements se font de plus en plus rapidement et il est important que la majorité puisse prendre le bon train. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé certaines initiatives maintenant dans le canton avec le Parc Suisse de l'Innovation à Bienne, mais aussi CITEM à Berne pour le MedTech. Et on vient maintenant, et le Grand Conseil va prendre des décisions dans la session qui s'annonce concernant aussi un important projet à l'EMPA à Thun. Et je dirais, le long de l'art, on va en fait développer des compétences dans tout ce qui est additive manufacturing, pour parler en franglais, et toutes des technologies qui finalement sont des projets stratégiques pour nos PME industrielles, parce qu'on croit dans ce canton encore à un développement de l'industrie high-tech. C'est en fait la base de notre développement futur.
Parler des PME, on peut être évoqué, ça c'est aussi une évolution sur le tissu économique. Il y a de plus en plus de centralisation, des groupes, notamment dans les sous-traitants. Il y en a encore beaucoup, mais les entreprises vraiment indépendantes, les PME indépendantes se font quand même plus rares qu'il y a quelques années. Ça c'est une évolution qui risque de fragiliser le tissu économique selon vous?
Oui, c'est difficile de faire des déclarations trop à l'emporte-pièce, mais moi, quand je suis arrivé en fonction, beaucoup de PME étaient sous-traitantes et travaillaient quasiment à 80-90% pour l'horlogerie. On a dit, une fois qu'il y a eu la crise horlogère, ça va être la bérésina, il y aura un gros problème. Et on se rend compte, en fait, la capacité qu'ont ces petites et moyennes entreprises de trouver des nouveaux débouchés, d'appliquer leurs technologies. Et maintenant, ces entreprises travaillent pour l'industrie automobile, pour l'industrie électronique et pour beaucoup maintenant dans le médical. Donc, elles ont réussi leur mue. Je pense qu'il faut croire en la capacité innovatrice et de développement de nos PME, sans tout de même, j'entends, se fermer les yeux sur une certaine tendance en Suisse à une perte de l'importance du secteur industriel. Et il y a des transferts qui se font maintenant en termes d'achat. Des grosses entreprises n'achètent plus en Suisse parce que c'est trop cher. Elles achètent en euros des parties de leurs équipements. Maintenant, la tendance aussi, c'est de déplacer la production à l'étranger de certaines machines ou de certains équipements. Mais pour sauver un certain nombre d'emplois en Suisse, il faut voir le côté positif aussi. Mais il faudra veiller à ce que les entreprises qui restent ici puissent continuer à se développer Et pour nous, le challenge, c'est effectivement de sensibiliser aux nouvelles technologies, d'où le Parc Suisse d'innovation, d'où CITEM et EMPA, pour que justement on crée des nouvelles opportunités de créer des entreprises et de créer des places de travail dans le secteur industriel chez nous. Donc on ne peut pas lutter contre cette évolution d'internationalisation qui est indispensable pour sauver des entreprises importantes de notre pays, de notre canton, mais par ailleurs il faut travailler en amont pour donner des nouvelles opportunités pour qu'on puisse faire des produits en 3D, qu'on puisse intégrer une production, digitaliser une production afin de rester compétitif et finalement de saisir de nouvelles opportunités. Et ça, c'est un petit peu notre rôle dans les coulisses, je dirais.
Si on parle du Jura bernois maintenant, de cette région à l'échelle du canton qui est quand même relativement petite, est-ce qu'elle pèse, est-ce qu'elle joue un rôle dans le canton de Berne selon vous?
Mais je crois que si je regarde nos statistiques, l'industrie de la précision est toujours un des plus gros domaines dans lesquels on donne des aides aux entreprises. Et l'industrie de la précision, elle est liée au Jura bernois. C'est sûr qu'on a aussi des entreprises dans la région Bienne-Seeland. Ce que je dirais, c'est que pour nous, c'est une entité en fait, parce qu'on a entre ces deux régions aussi beaucoup de relations entre les entreprises, donc c'est un réseau et il faut atteindre une certaine masse critique et avec la région biennoise et le Seeland, on a finalement une région qui est une force importante dans le secteur des microtechniques, dans le secteur de la précision, qui aura une nouvelle haute école spécialisée technique aussi, qui est un moteur important, une décision stratégique pour toute cette industrie, ainsi que le Parc Suisse d'innovation, qui n'a pas été facile à gagner pour bien dans le contexte intercantonal, et donc là je crois qu'on a planté des clous importants qui sont des bases qui permettront de garantir le développement de l'industrie de la précision dans le Jura bernois qui a ces dernières années, si je me déplace dans cette région et je le fais souvent le week-end en vélo puisque je suis un cycliste en plus, donc c'est un peu mon jardin, je vois quand même beaucoup de choses qui se sont réalisées. Si on regarde la zone de la Clé à Saint-Imier avec les différents parcs technologiques 1, 2, etc. qui se sont créés, dans les coulisses avec notre aide, et c'est important qu'on puisse soutenir ce genre d'initiative. Si je regarde Villeray aussi, la zone industrielle, donc cette région a connu une mue importante, Tramelan avec le parc technologique aussi, et on peut prendre en fait toutes les vallées, il y a eu une mue et on sent qu'il y a un dynamisme, qu'il y a des entreprises qui investissent et qui ont un avenir certainement prometteur.
C'est une région qui a des liens très forts aussi avec l'horlogerie et donc qui tousse quand l'horlogerie tousse. En ce moment, c'est assez compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que peut faire un canton pour les aider?
Alors, je dirais que c'est vrai qu'il y a encore cette dépendance avec l'industrie horlogère. Elle est moins forte qu'il y a une vingtaine d'années, certainement, mais elle existe encore. C'est surtout du fait que l'industrie horlogère a boomé ces dernières années, disons de manière extraordinaire. Donc c'est vrai que c'est parfois quand ça va trop bien, c'est un petit peu un oreiller de paresse. On va pas chercher des clients dans d'autres secteurs parce qu'il faut d'abord satisfaire les clients actuels qui ont des problèmes et qui doivent avoir des produits. Je dirais que les entreprises sont en tout cas équipées pour pouvoir continuer à se diversifier, à travailler d'autres clientèles. Et de ce côté-là, je suis assez optimiste. Donc il y a eu dans tout le long de ma carrière, durant cette période, toujours des hauts et des bas. Je suis confiant que les entreprises vont trouver des solutions et trouver des nouveaux marchés. L'aide que nous, on peut leur octroyer, c'est les aider dans le cadre de projets d'investissement qu'elles peuvent faire, voire aussi lors de recherche de nouveaux marchés et d'investissement sur de nouveaux marchés. Et c'est dans cette optique-là. Mais l'initiative, je dirais, reste auprès de l'entreprise.
On va dans la région beaucoup parler de frontières, notamment cet été. Alors, on ne va pas parler politique ici. Par contre, quand même, ça pose une question. Est-ce qu'en économie, les frontières cantonales, elles jouent un rôle? On voit qu'il y a quand même beaucoup d'échanges entre Neuchâtel, le Jura, le canton de Berne. Finalement, ces frontières cantonales, économiquement, elles sont importantes?
Non, je pense économiquement, on parle plutôt en bassin d'emploi, en zone avec des infrastructures qui doivent être complémentaires. Je pense là à la formation, à la recherche. Et il faut qu'en fait, cet écosystème, comme on le dit aujourd'hui, fonctionne en bonne... en bonne intelligence, je dirais. Et je crois que le rôle des cantons, c'est de veiller à ce qu'on ne crée pas de doublons, qu'on ait aussi à ce niveau-là, finalement, des collaborations, et pour que, finalement, notre tissu économique, qui est aussi très interdépendant, j'entends, des sous-traitants, des fournisseurs viennent d'une région ou d'une autre, ce soit Neuchâtel, Soleure, Jura, Berne, et cet écosystème, on doit le défendre, on doit le renforcer, surtout vis-à-vis des pôles que sont l'arc lémanique ou la région zurichoise, qui sont des régions qui croissent plus rapidement que les nôtres. Il faut bien s'en rendre compte, sans oublier Bâle aussi. Donc je crois qu'il y a une solidarité qui est nécessaire et une volonté d'investir pour que nous puissions sortir notre épingle du jeu à l'avenir.
On a parlé du Jura bernois, parlons un petit peu de Bienne. Vous avez une autre casquette, vous êtes président du conseil de fondation du forum du bilinguisme. Ce bilinguisme, qu'est-ce qu'il apporte selon vous au canton de Berne?
Je pense que le bilinguisme, il est important, pas simplement au niveau de la langue, mais aussi au niveau de la culture. Je le vis, moi, personnellement, depuis plusieurs années. Moi, quand je viens au travail, j'écoute les nouvelles à la radio romande. Quand j'arrive à Berne, mes collègues ont écouté les nouvelles à la radio alémanique, et souvent, on ne parle pas des mêmes choses. Donc, on se rend compte que les questions de bilinguisme sont importantes. C'est pour ça que des fois, moi, je tourne le bouton, j'écoute aussi parfois la radio alémanique pour pouvoir aussi mieux m'informer et d'avoir aussi cette vision. Donc, je crois que c'est important de cultiver ce bilinguisme, et le forum est un petit instrument, je dirais un aiguillon qui vise d'abord dans la région biennoise et à Bienne de mettre parfois le doigt sur les choses qui ne se sont pas faites correctement et de mettre un petit peu les gens à les rendre attentifs aux questions du bilinguisme afin qu'on puisse vivre en bonne entente et développer ces connaissances. Puis ensuite, avec le forum, on a, depuis que je suis président, on a décidé de lui donner une aura d'abord cantonal avec le soutien du canton de Berne, puis national avec le soutien de l'Office fédéral de la culture, et on essaime un certain nombre de projets aussi, j'allais dire, le long du rideau de Rushdie, en sorte, depuis le Valais, en passant par Fribourg, Berne, jusqu'à Bâle, et le but, c'est finalement d'essayer d'encourager au niveau de l'économie, au niveau de la culture, au niveau des écoles, en fait, la sensibilisation aux autres langues pour que dans ce pays, on continue à pouvoir non seulement se parler, mais se comprendre.
Denis Grisel, on a parlé tout à l'heure de l'horlogerie. L'horlogerie et l'arc jurassien, c'est une histoire d'amour. Dans le canton de Berne, on retrouve Longines qui a une autre histoire d'amour avec le quartz et avec le sport. On remonte le temps avec Marie-Lise Saillard.
Pile à l'heure. Longines et le quartz, une histoire d'amour qui dure. La marque de Saint-Imier se targue d'être un leader dans le développement de l'horlogerie à quartz. Elle vient d'ailleurs de sortir une nouvelle montre avec un mouvement quartz, la Conquest VHP. Et le lancement de ce modèle a eu lieu la semaine dernière à Neuchâtel. Et plus précisément à l'Observatoire de Neuchâtel. Le lieu n'a pas été choisi par hasard, comme l'explique la spécialiste de l'histoire et du patrimoine chez Longines.
Nous avons présenté ici, en 1954, un appareil de chronométrage qui a atteint la précision absolue. C'était une première mondiale qu'un appareil horloger portatif ne variait pas en 24 heures de test, et c'était ici à l'Observatoire de Neuchâtel.
Autant vous dire qu'à l'époque déjà, on ne rigolait pas avec la précision et on n'y allait pas de main morte pour évaluer les performances.
Dans les observatoires, on avait des tests à différentes positions, à différentes températures, pour voir si la montre variait ou pas dans des conditions parfois extrêmes.
L'appareil dont nous parlons est une sorte de boîte bleue assez volumineuse, comme un gros dictionnaire, assez lourde aussi, même si elle est portative. Son petit nom, c'est Chronocinégine.
Qu'est-ce que tu dis ?
Chronocinégine, avec chrono, du grec chronos, qui veut dire le temps, et ciné, comme dans cinéma. Parce que oui, il y a de l'image aussi.
Alors cet appareil horloger est relié à une caméra Payard-Bolex qui est fabriquée à Yverdon-les-Bains. Et cet appareil est capable déjà en 1954 de donner 100 images secondes avec l'image et le temps.
Bon, tout ça, c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Eh bien, cet appareil dont vous avez tous retenu le nom...
Qu'est-ce que tu dis?
Chronocinégine a été conçu pour le chronométrage sportif parce que les fédérations, au milieu du XXe siècle déjà, faisaient pression sur la marque pour qu'elle développe la précision du chronométrage. En fait, cet appareil de 1954, c'est un peu l'ancêtre de la photofinish.
C'est effectivement l'ancêtre de la photofinish et c'était particulièrement utile pour les sports à arrivée massive tels que l'athlétisme ou les courses de chevaux, quand il y a plusieurs concurrents qui arrivent ensemble sur la ligne d'arrivée et où il est très difficile à l'œil humain de les départager.
Et l'histoire du chronométrage chez Longines est bien plus ancienne. La marque a lancé son premier chronographe de poche simple en 1878. Elle a œuvré sur de très nombreuses compétitions, entre autres pour des Jeux Olympiques et des Championnats du Monde, et elle le fait encore.
Pile à l'heure.
De retour avec Denis Grisel, directeur de la promotion économique du canton de Berne depuis 21 ans, mais plus que pour quelques mois. On arrive gentiment au terme de cette émission. Notre invité, la semaine prochaine, va vous intéresser. Il s'agit de Tom Panettieri de Moutier. Il a lancé son entreprise spécialisée dans les drones. Il développe un drone pour la recherche de victimes d'avalanches et il fait ça chez ses parents parce qu'il a 19 ans. Ça, c'est un profil d'entrepreneur que vous appréciez ?
Oui, c'est intéressant en fait. Le drone, c'est un thème qui d'ailleurs nous concerne aussi. J'ai visité les deux plus gros producteurs de drones à Shenzhen, près de Hong Kong, la semaine dernière. Donc on voit que là, il y a un marché énorme et certainement que les Chinois ne vont pas pouvoir prendre toutes les parts de marché et qu'il y a de la place pour des spécialités. Et je trouve que le projet a en tout cas un certain avenir, certainement.
Se lancer comme ça à 19 ans, monter son entreprise, quel conseil vous lui donneriez ?
Ah, moi, je pense que ce qui est très important et ce qui était important pour moi, c'est d'essayer toujours de m'entourer, de s'entourer de gens qui apportent d'autres compétences et qui permettent finalement à l'entrepreneur qui est au centre de se concentrer sur ses forces et de s'appuyer sur des personnes compétentes dans les domaines peut-être où on n'est pas tout à fait sûr et on n'a pas toutes les compétences. Et je crois que ça, c'est souvent une garantie de succès.
Et vous, à quelques mois de votre retraite, à défaut d'un conseil, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Surtout la santé, si ça continue comme ça, c'est bien. Et puis je vais encore rester actif dans les milieux des PME, certainement. Il y a 2-3 projets qui se dessinent. Et naturellement, je vais rester président du Forum du bilinguisme, en tout cas jusqu'en 2019, puisque mon mandat va en fait arrêter à ce moment-là.
En tout cas, merci d'avoir été notre invité ce soir. Bonne soirée.
Merci à vous. Bonne soirée.
Un entretien que vous retrouverez en intégralité sur notre site internet. Passez toutes et tous une excellente soirée.
Sortie de boîte.